Monsieur Guy Simplice Kodégué, bonjour.
Oui, bonjour.
La crypto-monnaie ne se porte pas mieux par rapport aux autres monnaies. Avez-vous alerté? Est-ce à dire que le choix d'aller vers cette monnaie numérique est un faux départ pour la République centrafricaine?
Comme toute monnaie, une monnaie doit remplir un certain nombre de conditions. D'abord, ça doit être un moyen d'échange, c'est-à-dire que ça doit servir d'un intermédiaire d'échange, hein, puisque la valeur qu'elle possède doit permettre à un centrafricain d'acheter des biens et services et de vivre, de consommer et aussi d'investir. Puis cela peut aller aussi dans des échanges plus complexes à réaliser. Après, deuxièmement, il faudrait que ça soit une réserve de valeur. Il faudrait que cela permette l'accumulation des richesses, ça crée de la richesse. Et si ça crée de la richesse, ça permet de créer des emplois et favoriser l'innovation. Nous sommes même à recettes fiscales douanières, il ne faut pas l'oublier. Nous venons de là et c'est notre histoire. Nous appartenons à un espace.
Vous voulez parler
Et il y a
ici
des
de l'espace
contraintes aussi.
communautaire, la CEMAC qui a pour dominance le franc CFA.
Bien évidemment.
Mais cette question est déjà réglée par la conférence des chefs d'État, y compris la rencontre des ministres des Finances sur cette question de monnaie numérique dans l'espace sous-régional.
Il y a des réflexions qui sont engagées. C'est tout à fait normal et légitime qu'avec l'or et le tournant de 1970, où maintenant c'est le dollar qui remplace en lieu place de l'or. Donc, mais il y a des choses à revoir.
Sur cet élan de réserve par rapport à la crypto-monnaie, notamment sur le plan légal, la Cour constitutionnelle avait pris ses distances de cette monnaie numérique depuis le début de la guéguerre entre le gouvernement et la classe politique par rapport à cette monnaie. Mais pour le gouvernement, la crypto-monnaie permet aujourd'hui de contourner les difficultés de finances internationales qui fait défaut pour le pays. Est-ce que vous comprenez cette volonté du gouvernement de contourner la difficulté qui met aujourd'hui à mal le gouvernement face à la tension de trésorerie?
Il faut une base juridique à toute action publique. Il faut qu'il y ait une forme aussi de légitimité, de légalité. Nous l'avons, la légitimité, la souveraineté, la légalité, nous l'avons. Maintenant, il faut que tout cela se synchronise dans un ensemble. Et vous parlez tout à l'heure de la réaction de la Cour constitutionnelle. Nous avons fait allusion à l'union monétaire en Afrique centrale et cela rappelle, comme tout le monde le sait, la hiérarchie des normes juridiques. Nous faisons partie de cette communauté, nous avons signé des conventions et l'État doit respecter sa signature. Et la deuxième des choses, c'est que si la réticence est des réformes, bon, ça c'est un mot vieux, il va falloir à ce que toute réforme qui soit engagée, il faut que cela soit soigneusement inscrit dans un ordonnancement avec des séquences sur un temps long et analyser ses effets et que ces réformes doivent aussi prendre en compte au sérieux l'idée selon laquelle l'enchaînement des séquences à l'intérieur même de la nature même de ces réformes produisent des effets. J'entends par là des effets cognitifs, institutionnels, politiques, économiques et financiers que les unes et les autres. Mais le plus important, c'est que ces effets-là doivent transformer ces institutions en quoi cela peut orienter les institutions que j'ai citées tout à l'heure, en quoi cela peut les façonner dans le sens je pourrais, ou peut-être que cela puisse freiner. Donc, si on prend du recul et qu'on essaie d'analyser le tout, je pense que le temps donnera raison à ce que certaines réticences soient légitimes aussi de ce point de vue. Si on veut bien que nous puissions contourner les institutions, les sanctions internationales. Bon, c'est ce qui se fait un peu partout actuellement, ce qui se passe dans les BRICS.
Justement, en faisant allusion au pays des BRICS, la République centrafricaine aussi a cette posture d'aller vers ce marché. Sauf que aujourd'hui, près de 2 ans après l'adoption de la crypto, des voix s'élèvent pour dénoncer le fait que la déclinaison de cette monnaie numérique ne transparaît pas dans la loi des finances successives que les députés ont adoptée dans ce pays. Est-ce que cette situation vous inquiète?
Il appartient aujourd'hui aux autorités de bien chercher à tirer profit de ce qui se passe, hein, de se poser les bonnes questions, parce que ces retombées financières ou peut-être qui doivent s'intégrer, parce que le centrafricain, quand on lui a dit que c'est un bien nécessaire, c'est pour le pays, c'est le panier de la ménagère, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des transformations. Aujourd'hui, on peut dire que mais grâce au Bitcoin, bon, on aura des routes, route qui va quitter de Busangwa pour Bangui, de Mbaïki, on aura peut-être dans 10, 15, 20 ans, avec des projections sur le long terme, qu'on aura des autoroutes, qu'on aura un marché, qu'il y aura de l'innovation pour l'agriculture, que la catastrophique situation énergétique de notre pays va se résoudre. Oui, ça pose un problème de transparence. Et ça donne en quelque sorte cette image africaine de la jarre trouée quelque part. C'est un outil, il n'y a pas de garant, il n'y a rien, il n'y a pas de référence. Quand vous allez dans une banque, vous avez la façade physique d'une banque. Vous rentrez, vous trouvez des agents, des personnes humaines, vous discutez, vous échangez avec eux. Et dans le cadre de la monnaie fiduciaire, nous sommes totalement en dehors de ce cadre-là et il y a une opacité et les spéculateurs se frottent les mains sur ce marché. Il y a d'autres sociétés écrans qui ont été créées qui récupèrent ces actifs-là, ces dépôts des clients qui, dans une banque normale où il y a une traçabilité, vous avez des flux, quand vous retirez de l'argent dans une banque, vous avez un numéro, vous savez que votre fonds est déposé sur tel, il y a des intérêts dessus, il y a des produits dérivés, il y a beaucoup de choses. Donc là, on n'en a pas du tout. Et donc, ce qui se passe au procès aujourd'hui, qui met en lumière cette faillite de cette grande firme. Donc, nous ne pourrions pas du tout échapper à cela. C'est quoi le blockchain? Vous le savez très bien. C'est énergivore. Et c'est des machines qui travaillent. Et le travail ici, c'est quoi? C'est le travail de mine.
Vous développez la nature de la crypto-monnaie qui est arrimée à l'or. Or, aujourd'hui, la République centrafricaine développe une particularité qui est celle de Sangocoin. Est-ce que Sangocoin est compatible avec la norme internationale de la crypto?
Non, je sais que Sangocoin est rythmé sur l'Ethereum, qui est une grande plateforme aujourd'hui qui est redoutable, mais qui perd un peu de la valeur. Pourquoi? Parce que ses taux d'intérêt sont extrêmement très élevés et que cela n'attire pas beaucoup d'investisseurs. Mais le grand problème, c'est que non seulement ça, ils veulent effacer cette critique tenant à dire que cela joue sur l'environnement, sur la problématique de l'or aujourd'hui, parce que c'est de l'électricité que cela consomme. Donc, il faut donner le pouvoir aux épargnants de pouvoir avoir une forme de traçabilité, de maîtriser, d'avoir un contrôle. Personne n'a le contrôle là-dessus. Ce travail de minage, nous ne l'avons pas en République centrafricaine. Nous l'avons sous-traité à d'autres agences économiques extérieures. C'est dommageable. Ils ont des intérêts. Vous savez, sur le marché financier, on est ami à personne. Il n'y a que les intérêts qui comptent.
Vous avez évoqué tout à l'heure la question de répondance, c'est-à-dire de garant de ce système-là. La récente actualité de la République centrafricaine est celle que une société dite clé de succès a eu à partir avec beaucoup d'argent des contribuables qui sont des investisseurs. Est-ce que cette situation vous inquiète et comment pallier le problème?
Je disais tout à l'heure que nous sommes sur un marché nouveau où la crypto-monnaie, c'est pour se mettre à l'écart de toute réglementation, c'est d'éviter de contourner tout ce qui est organisation, institution établie, avec une indépendance. C'est vrai qu'il y a des vertus, il y a des avantages qui sont liés à cela, mais il va falloir réunir un certain nombre de conditions matérielles, structurelles, de la technicité, des agents économiques bien formés, des techniciens de haut rang, de haute qualité, des managers, etc., nationaux, bien sûr, qui puissent être dans une forme de garant pour le pays. La deuxième des choses, c'est que, vous savez, c'est une question qui est extrêmement complexe, parce que là, vous me parlez d'une histoire qu'il y a des compatriotes qui sont victimes d'escroquerie. Ça dépend aussi des circonstances spécifiques de chaque cas. Et il est légitime pour eux aujourd'hui de demander des mesures de protection, hein, et que ces personnes-là puissent se voir rembourser leurs dépôts. Et c'est toute la problématique de ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de garant. Vous savez, dans le cadre, je le dis, je le redis encore, en parallèle, nous avions la Banque centrale en ce qui concerne la monnaie fiduciaire. Nous avions les banques locales, nous avions les subdivisions décentralisées, etc. En matière de bitcoin, vous n'avez personne. Tout cela parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de spéculations. Je reviens encore dessus et j'insiste. Et je parlais de l'idée de tout à l'heure de la porte dérobée, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre une autre porte derrière et que tous les dépôts, mais ça sort dans cette porte-là et les gens sont de l'autre côté et ne regardent pas par derrière. À qui ces nombreux épargnants-là vont se plaindre. Vous voyez, donc, il y a plusieurs situations aujourd'hui. Je pense que ceux-là peuvent, ils sont en droit de se positionner. Bon, Il n'y a pas une réglementation spécifique, mais le droit reconnaît les faits. Nous avions le juge civil qui est là, hein. Donc les gens peuvent se plaindre. Mais il va falloir à ce qu'ils soient appuyés par l'État pour que ces épargnants puissent récupérer leur dû. Il y a une règle aussi pour les retombées, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une règle des retombées, hein, dans le cadre de Sangokuin, dans d'autres cadres, etc. Ces sociétés-là, mais il y a un principe qui est simple. Hein. Et on peut réaliser, on peut estimer que les cessions, par exemple, qui sont réalisées à titre non professionnels hein, peuvent relever systématiquement un régime de prélèvement unique, forfaitaire. Pourquoi pas? Ces contribuables ou ces sociétés-là, ben, s'ils n'ont pas choisi à la base d'être imposés de manière forfaitaire ou peut-être à des barèmes progressifs, j'en sais rien. Ça, ce sont des idées que moi j'émets. Ben, il va falloir ce que l'État et les particuliers récupèrent leurs dépôts.
Guy Simplice Kodégué, je vous remercie.
Merci.